Il désamorce minutieusement toutes les bombes qui frappent l'actualité. Philippe-Vincent Foisy.
On l'attendait avec impatience, cette sortie de Bernard Drinville, ministre de l'Éducation. Ça fait presque 100 jours qu'il a été nommé ministre. On l'a entendu un peu au début pour parler d'autres sujets que le sien. Finalement, il s'est calmé, a décidé d'aller en tournée et d'annoncer. Il est en train de le faire au moment où on se parle, ses priorités pour le réseau de la santé. On va écouter un extrait du point de presse.
Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est un plan de match, donc, qui vient du terrain, qui vient des gens qui travaillent dans le réseau, qui travaillent dans les écoles, donc qui vient de leur vécu. Notre premier ministre le répète constamment, l'éducation, c'est la priorité des priorités. On le doit à nos élèves, on le doit à leurs parents, on le doit à tous ceux et celles qui se consacrent à l'éducation de nos enfants.
Donc il le dit, les 7 priorités sont les suivantes. La première, bon, ça vient du terrain, mais la première vient clairement de son patron. Première priorité, revaloriser l'enseignement du français. La deuxième, et ça, ça va en plaire à plusieurs, rétablir une voie rapide vers le brevet d'enseignement. Là, ça risque de brasser un peu dans les ordres, avec les groupes qui représentent les professeurs, mais en même temps, on le répète depuis longtemps, c'est tellement compliqué de devenir prof et long pour ceux qui ont déjà un diplôme. Alors qu'en Ontario, c'est plus facile là-dessus, ça va peut-être changer les choses. Offrir du renfort à nos enseignants et nos enseignantes. Comment? Avoir des projets pédagogiques particuliers, plus accessibles et plus nombreux. D'avoir une deuxième vitesse qui est un peu plus large pour que le régulier, finalement, soit peut-être un peu plus petit. Investir dans la formation professionnelle. Donc ça, dire aux jeunes, vous n'êtes pas obligé d'aller à l'université, mais ne décrochez pas. Il y a des façons d'arriver à un job avec des diplômes d'études professionnelles. Rendre le réseau scolaire plus performant, c'est un grand point assez large, et poursuivre la rénovation et la construction des écoles. Est-ce qu'on va y arriver à rénover ces écoles-là plutôt qu'en construire des nouvelles? On va en parler de tout ça, de cette annonce-là, mais aussi de ce qu'on a appris ce matin sur les élèves qui ont trop eu d'échecs à l'examen de mathématiques avec Marois Risky, qui est députée de Saint-Laurent pour le Parti libéral du Québec. Surtout, c'est celle qui est porte-parole en matière d'éducation. Madame Risky, bonjour.
Bonjour.
Bon, là, on vient de l'entendre, là, en direct. Bernard Drinville est en train de parler. J'ai énuméré ces 7 priorités. Est-ce que ça a du bon sens pour vous?
Ben, moi, je suis contente qu'enfin il sort parce que ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Et je vais vous dire, je le sentais nerveux, mais je vous dis à M. Drinville, prenez un respire. Nous, on veut que ça réussisse. Puis, je vais vous dire que je suis même contente parce que dans certaines de ces priorités, il y a des propositions du Parti libéral du Québec que, malheureusement, son prédécesseur ne voulait pas entendre raison. Je vais vous en parler. Mais la première priorité qu'il devrait avoir, je vais en ajouter une, moi. C'est un tableau de bord. Le ministère de l'Éducation, chaque fois qu'on fait des demandes d'accès à l'information, ça nous revient, nous n'avons pas cette donnée. Ils savent pas combien d'enseignants risquent de partir à la retraite. Ils savent pas combien d'enfants ont réussi en français. Je vous invente rien, là, c'est vrai. Alors moi, j'aimerais avoir un tableau de bord en éducation. Avec ça, on va arrêter de naviguer là à vue à chaque fois. Parce que c'est bien beau de se donner, nous, des indicateurs de performance, mais si le ministère de l'Éducation ne tient pas les données, ben on ne sait pas si on a avancé ou si on a reculé. Et là, si vous me permettez, sa priorité, là, la numéro un, je comprends que le français, c'est important, puis on est tous d'accord, mais encore faut-il avoir des professeurs qualifiés dans la classe. Je vous ai envoyé une demande d'accès. Pouvez-vous croire que dans cette année-là, en ce moment, le ministère de l'Éducation a donné une dispense, là, d'enseignement à des gens qui ont un secondaire 5 et 547 dispenses à des gens qui ont un DEC. Après ça, on veut dire, hey, on veut valoriser les enseignants.
Donc, c'est quoi une dispense d'enseignement, là? Vous avez fait une demande d'accès à l'information, puis oui. On permet à ces gens-là qui ont un secondaire 5 d'être des profs?
Exactement. Et écoutez, il y en a 547 qui, avec juste un DEC, sont profs. Mais moi, là, si je veux valoriser un enseignant qui a fait 4 années de baccalauréat, qui a été formé en pédagogie, mais dans la classe à côté, c'est l'élève qui a gradué l'année d'avant qui est à côté de lui. Pensez-vous qu'il s'en valorise?
Est-ce que c'est vraiment ça? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a son R5, mais qui a une excellente expérience professionnelle? Puis, ça, on le sait pas.
ça, on sait pas. Puis moi, ma demande d'accès, j'ai vraiment demandé le niveau de diplomation. Ouais. Et là, ça m'est revenu avec des chiffres. Et là, secondaire 3, secondaire 5, il y en a 3. Et au niveau juste d'un DEC, il y en a environ 5, un peu plus de 500. Ce qui est quand même énorme. Et on a commencé l'année, année après année, là, à chaque année, c'est la même affaire. Il nous manque 500 profs. Il nous manque 1000 profs. Il nous en manquait 1500. Là, on a donné, là, il y a tellement de profs légalement qualifiés qui quittent le navire parce qu'on n'est pas capable de retenir. En début, je vous ai dit qu'il y a des propositions qu'on est content d'entendre, que c'est nous qui l'avons fait. Moi, quand il dit les profs veulent avoir un aide-enseignant, on est d'accord, on l'a proposé. Mais maintenant, il y a
faut les trouver, là.
Non, ils sont là. Les aides-enseignantes, là, c'est toutes les éducatrices qui le matin accueillent votre enfant, mais que le midi, entre le matin et le midi, doivent retourner à la maison. Ils ont des horaires coupés. Elles font environ 20 à 25 heures par semaine. Elles sont pratiquement toutes à temps partiel. Elles gagnent moins de 30 000 $ par année. Ce sont majoritairement des femmes. Et ces femmes-là, c'est des éducatrices. Donc, ils sont quand même formés pour venir en aide à des enfants. Alors, pourquoi que ces gens-là, on les met pas à temps plein? On va leur donner de la permanence dans leur travail. Elles ne seront plus dans une précarité d'emploi. Et ça va être la deuxième paire de bras que les enseignants nous demandent. Ils veulent avoir de l'aide dans la classe parce que des fois, quand il y en a un qui est turbulent, par exemple, ou qui a besoin d'attention particulière, la prof, là, elle peut pas se diviser en deux avec 20 élèves puis avoir dans sa classe 7 élèves qui ont des besoins particuliers et en plus une dizaine de plans d'intervention. En donné, là, c'est parfait pour virer fou. Là. Je vais vous dire, moi, je suis allée dans une classe là, et dans ma classe, après une semaine, j'étais littéralement épuisée et pourtant, je suis de formation professeure à l'université.
Ouais.
C'est deux mondes complètement à part. Mais ça, cette mesure-là, j'y crois. Et
il y a sur le brevet?
Sur le brevet. Alors, allons-y sur le brevet. Le diable est dans les détails.
Mais si on fait comme l'Ontario, là, une voie de passage en 6 mois, là, tu sais, vous avez un bac en français, puis vous voulez enseigner le français, il faut faire une maîtrise de 2 ans. C'est pas encourageant, ça donne pas le goût de le faire. Si on peut le faire en
ça,
6 mois.
Mais si on est capable d'avoir de la formation sans, là, évidemment, niveler vers le bas, parce qu'il faut pas oublier l'affaire. C'est pas juste avoir un bac en français, il faut être un bon pédagogue. Puis je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont déjà expérimenté d'avoir un prof super intelligent, mais pas très bon pédagogue. Donc, ça non plus, ça donne un prof qui est pas bon.
Ça, tu l'apprends pas à maîtrise non plus, là.
Non, au contraire, non. Il y a la formation en pédagogie qui donne des bons outils pour bien exprimer son propos, pour s'assurer de ne pas perdre un jeune dans une classe. Moi, là-dessus, ce que nous, en Parti libéral, on a proposé, c'est de s'assurer que la maîtrise qualifiante, elle soit accessible. L'année dernière, il y avait eu à l'Université de Montréal des centaines d'étudiants qui ont été refusés à la maîtrise qualifiante par manque de place. J'ai demandé au gouvernement d'ouvrir plus de maîtrises qualifiantes à temps partiel, mais aussi à distance, parce que nous, là, c'est pas normal qu'un des seuls centres de formation soit à Montréal. On va quand même pas faire déplacer des gens de Trois-Rivières, de Rimouski jusqu'à Montréal pour faire une formation, alors qu'ils pourraient l'avoir partout au Québec et aussi à temps partiel, le plus accessible pour les gens. C'est ça que les gens nous demandent, mais aussi d'avoir une formation accélérée. Donc, est-ce qu'on est capable d'avoir des cours plus intensifs, particulièrement l'été? L'été, là, la plupart d'entre eux, il y en a qui se disent, moi, je suis capable de donner un gros coup là, durant l'été. Je vais faire des cours intensifs durant l'été. Et c'est tous des gens, je vais vous le dire, qui pour la plupart aussi ont des familles. Alors, non seulement ils sont profs le jour, ils gèrent la famille le soir, puis en plus, ils prennent leur cours. Il faut aussi penser à ça pour s'adapter à eux et à leur réalité. Il va falloir qu'on soit capable de les retenir, ces gens-là. Mais je vous dis une affaire, M. Philippe-Vincent Foisy, puis je termine là-dessus. Si on est capable de retenir nos enseignants, on va régler un gros problème. Puis bon an, mal an, chaque année, on perd environ 20 à 25 des nouveaux profs.
Ouais, mais ça veut... Comment on les retient?
Ben, eux, là, surtout pour les plus jeunes, quand ils arrivent puis qu'ils n'ont pas les outils dans leur classe, qu'ils savent qu'ils ont besoin d'une orthophoniste, qu'ils ont besoin d'un orthopédagogue, qu'ils ont besoin d'un technicien en éducation spécialisée, mais que ça ne vient pas, mais que tout ça dans leur classe qu'on dit régulière, mais qui est zéro régulière, parce qu'au fond, tous les enfants ont des besoins, ou la majorité d'entre eux ont des besoins particuliers, mais qui n'ont pas d'aide, ils sont essoufflés. Alors, si on est capable d'avoir, oui, les ressources des professionnels de soutien, mais aussi le personnel de soutien, et s'assurer d'avoir la deuxième paire de bras dans la classe, moi, je suis convaincue qu'on est capable à ce moment-là d'avoir un atterrissage en douceur pour un professeur en début de carrière.
Sur cette idée d'avoir des projets pédagogiques particuliers plus accessibles et plus nombreux, est-ce que c'est la solution pour régler le fait que le régulier est difficile?
Nous, au Parti libéral, c'est clair qu'on a proposé puis on y tient que les projets pédagogiques soient gratuits jusqu'à concurrence de 5 000 parce que pour nous, c'est inacceptable qu'un jeune, par exemple, soit privé de hockey parce que ses parents ne sont pas capables de payer le projet pédagogique à 3 500 dans son école. L'école publique doit être publique pour tout le monde et pas juste pour certaines personnes. Sinon, ça fait vraiment un système
abusif. Oui, mais en même temps, s'il y a plein de projets pédagogiques particuliers là, qui sont super le fun, là. Fait que là, tu as toutes les plus mobilisées, tu as toutes les plus motivées, tu as les meilleures parce que c'est souvent, ça prend des bonnes notes si tu veux rester dans ces projets-là, qui vont aller dans les projets-là. Après ça, tu vas voir les plus riches qui vont aller au privé.
Vous touchez un bon point? Sur l'histoire des notes, mais justement, pourquoi qu'on regarde pas pour les élèves qui sont déjà en difficulté, pour eux, dans leur cas, eux, de dire, mais vous, c'est pas une question de notes, c'est une question de motivation scolaire. Et c'est souvent la personne là, que c'est le plus difficile d'aller à l'école, qu'on a besoin d'accrocher à l'école, justement par projet pédagogique particulier. Alors aussi, ça pourrait être quelque chose qu'on devrait regarder, de ne pas juste regarder ta note pour savoir si oui ou non tu as accès au basketball. Si un jeune là, qui a de la misère, qui en arrache, que lui, là, sa motivation, c'est le basket, ben justement, aidons-le, ce jeune-là.
Juste sur des nouvelles qui sont plus d'actualité, dans le journal ce matin, on apprend que Québec a traficoté des notes en disant l'examen de maths, 4e secondaire, il n'y a pas assez de monde qui ont passé. Même si l'examen était adouci, ça a été encore trop difficile. Donc, les 55% sont montés à 60, puis il y a beaucoup plus de jeunes qui ont finalement passé leur maths. Est-ce que c'est une pratique qui a du bon sens?
Non, absolument pas. Là. En fait, c'est complètement inacceptable. Mais le maquillage de notes, ce que je trouve ça vraiment déplorable, pendant toute la pandémie, quand que moi j'avais dit, il faut faire attention pour pas créer une génération COVID, il faut mettre des sous maintenant.
C'est ça qu'on a, là.
Exactement. Et pourquoi qu'aujourd'hui on apprend ça? C'est parce que le gouvernement ne voulait pas voir la réalité. Rappelez-vous, là, on avait un ministre dans l'éducation ainsi que le premier ministre qui disait « Inquiétez-vous pas, c'est exagéré, ça va bien, le rattrapage a été fait, on a mis 10 millions, ça a été suffisant. » La réalité, c'est que ça n'a pas été suffisant. Puis malheureusement, on a diplômé des gens qui ont encore des difficultés en français et en mathématiques alors que ce sont des fondamentaux en éducation.
Ouais. Puis sur les bulletins chiffrés, êtes-vous pour?
Oui. Écoutez,
mais ça vaut quoi un 55% si on peut le monter à 60 puis c'est 65?
Ça vaut quoi un commentaire qui peut être modifié puis qui peut être subjectif?
Ben non, tu comprends incompétence, t'es comprends ou t'es comprends pas?
Justement, une note, c'est qu'est-ce qu'on comprend le plus rapidement possible. Sans refaire la genèse là-dessus, là, ça fait plus de 20 ans que les gens en parlent. Et en fait, je suis retournée en histoire là, du Québec. Quand le premier ministre était lui-même ministre de l'Éducation, c'est lui-même qui a refait au niveau des bulletins parce qu'il y avait, à l'époque, non seulement il y avait des notes, après ça, c'est devenu des lettres, après ça, c'est même devenu des bonhommes sourires. Alors là, finalement, Mme Courchesne, le grand libéral, a dit, là, ça va faire. Les parents, c'est eux qui doivent comprendre le bulletin. Le bulletin s'adresse aux parents. Le parent lui, doit savoir et comprendre rapidement est-ce que mon enfant est en situation d'échec ou pas? Est-ce qu'il est en voie de situation d'échec ou pas? Il ne faut pas qu'il apprenne en février, mars. Il faut que le plus rapidement possible, on soit capable de déceler si oui ou non mon enfant a besoin d'aide dès le mois de janvier. Dire, OK, mon enfant maintenant a des difficultés en français, il va falloir qu'on ajoute de l'aide.
Fait qu'on ne pourrait pas juste dire votre enfant a de la difficulté en français, il faut ajouter de l'aide.
Moi, je pense qu'il faut la note. Et s'il y a des profs qui veulent ajouter des commentaires, parfait. Bon. Mais on ne peut pas enlever les notes.
Marois Risky, merci d'avoir été là. Puis je pense qu'on va se parler souvent d'éducation au cours des prochains mois. Merci beaucoup. Là.
Merci à vous.
Salut. Bye bye.